Bienvenue dans une nouvelle saison de Basculement, le podcast du LAP, le laboratoire d'anthropologie prospective de l'UC Louvain. Je suis Bénédicte Fontaine et je suis très heureuse de pouvoir à nouveau discuter de leurs recherches avec des anthropologues. Pour ce deuxième épisode, j'ai reçu Marie Derrider et nous avons parlé de sa thèse et plus particulièrement de sa recherche de terrain à Yuwaru dans le delta du fleuve Niger. Elle nous parle de son attention particulière aux nexus dans leurs multiples dimensions, des nœuds où les populations se rencontrent, des nœuds infrastructurels, des nœuds théoriques. Elle raconte aussi les élites et leur capacité à s'adapter sans cesse. Elle illustre en pratique comment la recherche de terrain permet de penser ensemble les contextes globaux et locaux et comment ceux-ci s'enchâssent. Bienvenue dans Basculement, nous écoutons Marie Derrider.
Le delta intérieur du fleuve Niger est vraiment passionnant pour ça, parce que c'est vraiment un carrefour en fait au niveau du Sahel, donc dans cet espace géopolitique et oui, qui est vraiment assez incroyable, assez passionnant, avec vraiment une quantité de personnes en mouvement dans ces espaces, une donne environnementale extrêmement complexe, une histoire longue avec vraiment aussi une succession d'empires, de royaumes, de conquêtes, une dimension conflictuelle très importante aussi, surtout ces dernières années, vu le contexte actuel, mais vraiment un endroit extrêmement beau, extrêmement complexe. Et alors aussi, ce qui est passionnant, c'est effectivement, alors qu'on a tendance à penser que l'arrière-pays, les contextes ruraux sont en fait souvent assez fort stigmatisés avec toute une série de stéréotypes. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se rendre compte comment, au contraire, en fait, tous ces contextes ruraux sont à la fois en marge et en même temps au cœur, en fait, de toute une série d'autres enjeux. Et c'est vraiment le cas de Yuwaru et du delta intérieur du fleuve Niger dans lequel j'ai travaillé, qui est vraiment au cœur de cette donne environnementale complexe, de cet espace sahélien. Jean Gallet parlait d'une oasis dans le Sahel, du delta intérieur du fleuve Niger. Donc ça représente bien, en fait, l'enjeu aussi en termes de ressources naturelles que représente ce delta. Et puis, les populations qui traversent ce delta, puisqu'on est dans un espace extrêmement mouvant aussi, changeant au fil du temps, au fil des saisons, au fil des crues, au fil des mouvements de population, au fil suivant le rythme des troupeaux aussi, suivant le rythme des pêcheurs aussi et du poisson. Donc on voit comment effectivement il y a cette imbrication forte entre les populations et ce contexte particulier du delta, et comment effectivement on se situe au carrefour, au cœur de cet espace sahélien en fait.
Et alors à la base, pour ton terrain de thèse, tu vas investiguer, tu vas poser la question de la décentralisation de l'État, ça, des processus de démocratisation, je fais des guillemets avec mes doigts, des processus de démocratisation qui imposent des élections communales, une décentralisation de l'État, enfin une mise en place d'un système politique qui ressemble à ça.
Oui, c'est ça. Et donc en fait, l'idée même de la thèse, c'est vraiment ça, c'est réfléchir sur comment un nouveau cadre normatif qui arrive avec la décentralisation de l'État, qui est présenté comme ce cheval de Troie de la démocratie, hein, au niveau micro-local, qui est supposé amener ces processus de démocratisation au milieu local. L'idée, c'est vraiment, à travers les élections locales notamment, et ce fameux jeu politique local, l'idée, c'est de comprendre, dans le bouquin, comment, en fait, les pouvoirs locaux, les élites locales, vont progressivement se reconfigurer au regard de cette nouvelle donne-là, et de cette nouvelle, on va dire, injonction qui vient à la fois de l'international, mais aussi en termes de politique intérieure au niveau malien. Et donc, c'est vraiment essayer de comprendre comment, finalement, une arène locale va pouvoir se reconfigurer, se repositionner par rapport à cette nouvelle donne, par rapport à ces injonctions, et pouvoir négocier, si vous voulez, son jeu politique au niveau micro-local, tout en ayant des articulations, évidemment, avec d'autres échelons.
Oui, c'est une des choses qui m'a vraiment tout de suite beaucoup plu, c'est que tu utilises plusieurs fois le terme de gouvernement des hommes et gouvernement des ressources.
Oui.
Et je trouve qu'il y a une vraie poétique, qu'il y a quelque chose de très poétique à penser ces deux choses conjointes. Mais l'autre chose que tu articules très bien, je vais de citer, c'est de relier les analyses ethnographiques aux contextes globaux et englobants dans lesquels les terrains d'investigation sont enchâssés. C'est ce jeu avec les échelles, arriver à penser ce qui est là et ce qui n'est pas là, mais qui a influence.
C'est ça. Voilà. Ça me semblait vraiment crucial, en fait, ce jeu d'échelle, parce que à Yuwaru, donc, c'est vraiment l'impression que j'ai toujours eue, c'est à la fois un contexte extrêmement isolé, hein, 9 mois par an, c'est quasi une île au sein du delta, hein, donc voilà, dans un contexte sahélien, il y a une quantité d'eau qui peut surprendre et qui peut aussi amener des complexités pour les mobilités, pour pouvoir bouger, pour pouvoir s'articuler, en fait, au reste du territoire du pays et puis au-delà du pays. Et donc ce qui est intéressant à Yuwaru, c'est vraiment ça, c'est à la fois on est dans ce contexte qui peut sembler extrêmement isolé et en même temps extrêmement connecté, en fait, puisque à travers les rythmes de crue et de décrue, les mouvements des troupeaux, à travers le jeu politique et l'histoire politique et son enchâssement aussi dans l'histoire politique nationale, en fait, à travers des ressortissants de Yuwaru qui ont joué pleinement dans le jeu politique national au niveau malien, au niveau de l'État, on se rend compte comment effectivement on a ces contextes micro-locaux qui sont toujours enchâssés en fait dans des dynamiques plus larges. Et ces dynamiques plus larges ne semblent pas forcément de prime abord extrêmement visibles, mais en fait sont bel et bien présentes et vont structurer le jeu politique. Et donc ça, c'est important vraiment d'arriver effectivement à investiguer ces dimensions-là, d'investiguer ces contextes-là et d'arriver à les articuler. Et c'est un de mes enjeux, c'est un des enjeux qui traverse un peu l'ensemble de mes travaux, c'est vraiment d'articuler ces contextes micro-locaux, d'articuler ces réalités vécues par les populations avec finalement ces contextes plus larges, mais qui vont être complètement imbriqués dans le vécu des personnes et aussi cette dynamique de transformation et de reconfiguration. Voilà, ça c'est vraiment un enjeu qui traverse l'ensemble de mes travaux, et particulièrement le Delta, enfin les travaux sur le Delta et sur Yuwaru, clairement oui. Parce que ça permet aussi d'historiciser en fait les dynamiques observées. Et donc ça c'est important, ça, à la fois ça permet de les situer dans un contexte présent, mais si on tient compte de ces contextes globaux et englobants, il y a vraiment cette dimension d'historicisation et de temps long qu'on peut vraiment mobiliser à travers les recherches et à travers ces articulations, en fait, ces idées d'assemblage, en fait, de ces différents échelons, à la fois, on va dire, sur le plan, j'ai envie de dire, géopolitique ou global, et en même temps, sur le temps plus longitudinal en termes d'historicité.
Tu commences directement ton intro par le fait que si ta thèse se passe au Mali, elle se passe juste avant le coup d'État. Et tu racontes avec beaucoup de finesse que, comme beaucoup d'autres chercheurs, tu n'as pas pu prévoir ce coup d'État. Et tu cites, comment est-ce qu'il s'appelle, Siméon, qui dit « À quel point les crises sont tissées de l'ordinaire des sociétés qui les connaissent ?» Ce qui est très joli. La question que je veux poser, ce n'est pas tellement ce que tu fais de la crise, mais c'est comment est-ce qu'on fait le deuil d'un terrain auquel on n'a plus accès ?
Alors ça a été un processus assez assez complexe, surtout qu'en plus quand effectivement cette fameuse crise, là aussi je mets des guillemets malienne, c'est emballé, c'était exactement au moment où j'étais en train de rédiger et où j'étais en train de rédiger justement sur des questions de démocratie, démocratisation, j'ai envie de dire un discours assez ronronnant qu'on retrouve notamment dans les bailleurs de fonds, enfin chez les bailleurs de fonds, et aussi parce qu'à l'époque le Mali était présenté comme un exemple, hein, un modèle de démocratie et de processus de décentralisation plus ou moins abouti, en tout cas dans certains cénacles, et donc paradoxalement, une première difficulté, c'était vraiment ce décalage en fait entre mon temps d'écriture, mon temps de terrain et puis l'actualité. Et donc vraiment d'arriver à un moment donné se reconcentrer sur la finalisation de ce travail d'écriture en vue de la thèse et puis en vue de la publication, sans chercher constamment à vouloir actualiser l'ensemble des données, ce qui est particulièrement dans le contexte malien un challenge assez assez énorme, puisque les dynamiques bougent extrêmement vite en fait. Et donc à moins de faire un suivi, j'ai envie de dire extrêmement régulier au jour le jour, mais ce qui ne correspond pas avec la temporalité de l'écriture, en fait, j'étais en constant décalage entre cette actualité, ce travail de recherche, ce terrain qui avait été réalisé et puis ce travail d'écriture. Ça, c'était un premier décalage important. Un autre décalage important aussi, c'était finalement tous mes interlocuteurs que j'avais au téléphone, avec qui on avait encore des contacts. Il n'y avait pas encore WhatsApp à l'époque. C'était pas encore le temps des réseaux sociaux, en tout cas pas à Yuwaru. Maintenant, ça a changé. Mais ce qui était assez difficile aussi, c'était ce décalage avec le vécu des gens avec qui j'avais vécu pendant plus d'un an et ce qu'ils expérimentaient dans ces premiers moments de basculement et puis ce sur quoi moi je travaillais. Et donc il y avait aussi vraiment ce décalage entre les préoccupations de la recherche et puis finalement les préoccupations extrêmement immédiates de toute une série de personnes que je connaissais bien. Qui étaient amenés à devoir prendre des décisions assez rapides pour leur futur proche, et puis finalement pour un futur qui s'est, on va dire, éternisé, ou en tout cas qui s'est installé dans la durée, dans ce contexte conflictuel. Et donc ça, c'était un deuxième décalage assez compliqué, parce qu'effectivement inattendu, même si bien sûr le nord du Mali et le Delta ont toujours connu un rapport complexe avec l'État central situé à Bamako, qui effectivement, on n'est pas la première insurrection au nord du tout. On n'est pas dans les... Il y a une trame conflictuelle à la fois micro-locale et puis qui peut prendre d'autres ampleurs qui était déjà là et qui était déjà existante, bien sûr. Mais en même temps, voilà, basculer dans un contexte de conflit armé, c'est autre chose. Et ça, c'est sûr que je ne m'y attendais pas, même si c'est, en reparlant avec mes interlocuteurs, clairement, il y avait des tensions, mais non, comme Johanna Siméan et comme d'autres auteurs qui travaillaient sur le contexte malien l'ont écrit, cette ampleur-là de basculement, je ne le percevais pas, non. C'était pas quelque chose que j'avais anticipé. Maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où on a eu ce contexte-là qui s'est invité sur mon terrain, j'ai clairement dû faire le deuil de retourner sur ce terrain, et ça n'a pas été un processus simple, parce que d'une part, on reste engagé avec les gens avec qui on a vécu. D'autre part, c'est vrai qu'il y a aussi toute une série de personnes qui vont vous encourager à continuer à travailler, à investiguer, même à distance, sur les dynamiques observées. Et moi, j'avais aussi un certain décalage avec cette idée de finalement, quelque part, mobiliser le vécu de mes interlocuteurs de terrain à des fins académiques, sans qu'on puisse clairement reparler du contrat, en fait, qui nous liait et de mes préoccupations de recherche. Donc, je me sentais un petit peu aussi dans un certain conflit de loyauté par rapport à mes interlocuteurs, et mal positionnée que pour pouvoir utiliser les confidences qu'ils me faisaient ou ce qu'ils me racontaient par bribes, comme ça, par coup de téléphone. Alors que là, on n'était pas du tout dans un contrat de recherche, entre guillemets. On n'était que des personnes qui échangeions à travers un contexte bien particulier et sur un contexte bien particulier. Donc du coup, j'ai eu besoin de prendre distance, en tout cas, par rapport à ce terrain-là, tout en gardant des contacts. Et j'ai eu vraiment besoin de prendre distance et de repenser, en fait, mes thématiques de recherche, repenser aussi mon rapport au terrain, et repenser aussi, si tu veux, tout ce que j'avais pu... acquérir comme savoir, en fait, et comme connaissance et comme expertise sur la zone, pour comprendre d'autres enjeux qui se jouent encore aujourd'hui au Mali, bien sûr. Et c'est ce qui m'a amené à travailler sur ce fameux nexus migration, développement, sécurité, et qui est l'objet de mon projet postdoc. Mais donc, l'idée, c'était ça, c'était de glisser sur des thématiques, de retravailler certains enjeux, comme les enjeux sécuritaires, mais à travers d'autres prismes, d'autres angles et d'autres ancrages ethnographiques aussi, tout en gardant des liens avec les gens de la localité où j'ai travaillé, mais sans mener de recherches sur eux. Pour moi, c'était vraiment un enjeu d'arriver à décaler, à glisser sur mes thématiques de recherche et sur mes ancrages, tout en, évidemment, restant voilà, informée par, par ce qu'il me transmettait, par ce qu'il me communiquait. Et ça me donne effectivement une certaine compréhension de ce qui se passe au Mali, bien sûr, indéniablement, et une compréhension aussi fortement ancrée justement dans, dans toutes ces dynamiques de gouvernement des ressources, hein, cette fameuse approche liée aux ressources, liée à la précarisation aussi de ces systèmes pastoraux, de ces systèmes de pêche, de ces systèmes agraires, notamment liés à toute une série de contextes extrêmement changeants. Et donc ça, c'était vraiment... Ça m'a donné une compréhension fine, et je pense que toute une série de choses que j'ai apprises en étant dans le Delta me permettent de, d'avoir un regard singulier sur le contexte actuel et de ne jamais perdre de vue, dans un contexte de conflit armé, ces enjeux micro-locaux, en fait. Et effectivement, cette idée que, voilà, le quotidien, en fait, le quotidien, les dynamiques quotidiennes, les rapports de pouvoir, les dynamiques politiques, l'histoire longue, vient s'entremêler dans ces conflits, dans ces enjeux, qui effectivement s'articulent eux aussi et sont eux aussi enchâssés dans d'autres réseaux, qui se situent à d'autres échelles. Mais néanmoins, sans ce, cette trame sociale complexe, on n'aurait pas les conflits qu'on a aujourd'hui, en fait.
Et tes acteurs de terrain, eux, ils étaient... Non, ils n'étaient pas plus préparés que toi à l'apparition d'un conflit armé violent.
Non, c'était pas du tout ce à quoi ils s'y attendaient. J'ai peut-être l'un ou l'autre interlocuteur du Nord qui était, j'ai dit Nord parce que hors du Delta, donc qui était plus au Nord du Delta, qui m'avait attiré l'attention sur effectivement des tensions, ça oui. Mais par contre, à Youarou même, non. Clairement, mes interlocuteurs de terrain ne s'attendaient pas à un conflit armé de cette ampleur-là. Et d'ailleurs, enfin, il y a cette présence de cette mémoire traumatique au Mali quand même liée aux conflits antérieurs. Et donc, clairement, ce qui s'est passé là a réactivé ces enjeux, cette mémoire. Et puis aussi, il faut pas oublier quand même que les projecteurs au tout début de cette fameuse crise malienne, entre guillemets, était braqué sur le nord du pays, mais d'entrée de jeu, en fait, le delta intérieur du fleuve Niger et certainement la partie où j'ai travaillé était d'entrée de jeu une zone grise où toute une série de groupes armés étaient déjà présents, déjà en activité, sans forcément revendiquer une appartenance très claire. Et donc, très clairement, dès les premiers instants, on a tous les agents de l'État qui ont déguerpi, qui donc ont retraversé le fleuve, hein, cette frontière naturelle, ont retraversé le fleuve pour pouvoir être plus mobile que ce qui est possible à Youarou si jamais il fallait partir. Donc très vite, très rapidement, en fait, mes interlocuteurs de terrain se sont retrouvés livrés à eux-mêmes et ont ce sentiment d'être lâchés par un pouvoir central et d'être livrés à eux-mêmes face à effectivement des groupes armés qu'ils identifiaient difficilement et face à des choix auxquels ils ne s'étaient pas forcément préparés. Alors j'ai certains interlocuteurs qui effectivement ont fait le choix de quitter la zone, hein, et d'aller ailleurs au Mali, hein, simplement de reconstruire d'autres activités économiques et professionnelles et d'autres et leur vie de la reconstruire ailleurs. Pas forcément très loin, mais quand même. Et puis d'autres interlocuteurs qui eux sont restés sur place parce qu'il n'y avait pas d'autres alternatives qui s'offraient à eux, ou en tout cas pas d'autres alternatives qui leur semblaient viables.
Donc tu étais la femme de Simon.
Donc oui, j'étais la femme de Simon. Donc c'était un peu alors sur ma propre positionnalité, c'est quelque chose que voilà, que j'ai réfléchi chemin faisant, et puis aussi après cette thèse, hein, donc c'était intéressant d'avoir cette réflexion. C'est que donc je suis arrivée à Youarou avec Simon, qui était mon mari, donc. Et donc clairement, on avait tous les deux quitté la Belgique dans cette optique de réaliser mon terrain de thèse, et c'est lui qui m'accompagnait. Donc très clairement, on était dans cette perspective-là, et puis... il se fait qu'à Youarou même, mais en fait, oui, on était dans une société patriarcale, et où effectivement, mon statut de femme mariée est devenu un statut très important. Et le fait que je sois la femme de Simon sur le terrain, en fait, c'est finalement, on va dire les points d'équilibre qui se sont rebalancés autrement, et ça m'a permis une certaine insertion sur le terrain, très particulière, assez unique, puisque j'avais déjà fait des terrains ethnographiques avant, et puis j'ai continué des recherches ethnographiques après ce terrain de thèse, mais sans être accompagnée de mon mari. Et donc oui, clairement, ça m'a donné une insertion sur le terrain très différente, avec vraiment des enjeux autour de l'apprentissage. Il y a vraiment cette socialisation, cet apprentissage de qu'est-ce que c'est être une femme mariée à Yuwaru, quelle est ma place, quel est le rôle que je dois tenir, tout en sachant que je ne pourrai jamais 100% que je n'aurai jamais pu à 100% m'y conformer. Et à cette, toujours eu cette négociation avec mes interlocuteurs de terrain, de à la fois j'étais cette femme mariée avec une certaine moralité à tenir, hein, donc et notamment notre gardien Mohamed jouait un rôle très important dans ce rôle de garant de ma moralité, hein, du fait que je ne faisais pas du n'importe quoi une fois la nuit tombée, et que je m'occupais de mon foyer, que je m'occupais d'être présente en fait chez moi. Et en même temps, j'avais cette liberté du coup de ne pas être vue comme une potentielle menace ou une potentielle rivale, et de pouvoir du coup rentrer dans certaines familles, rentrer dans certains foyers avec un contexte beaucoup plus apaisé, je pense, que si j'avais été seule et que si j'avais été une femme pensée comme étant accessible par les hommes de mon terrain. Et donc ici, effectivement, ça m'a donné une place très singulière, et une place aussi qui m'a permis d'avoir des réseaux de soutien aussi, indépendamment des réseaux que je pouvais tisser dans le cadre de ma recherche. Et donc ça, c'était vraiment important aussi. Et aussi, quand je suis retournée par la suite, sans mon mari, mais à Yuwaru, en fait, j'ai vraiment rebénéficié de ces réseaux de soutien et d'entraide qu'on avait tissés parce qu'on était venus en couple et qu'on avait vécu ce temps long à Yuwaru, et que les réseaux que j'avais construits n'étaient pas uniquement ou n'avaient pas été uniquement dictés par ces impératifs de recherche, en fait. Ce qu'on peut parfois avoir dans d'autres terrains, dans d'autres circonstances, où finalement, on ne se pense que comme instrument de sa recherche et non plus comme finalement une personne comme faisant partie prenante de ce tissu social dans lequel on évolue. Donc effectivement, la femme de Simon, ça m'avait, en termes de, sur les questions de genre, ça m'a vraiment effectivement éclairée. Et en même temps, j'avais cette espèce de schizophrénie aussi, au regard aussi de ce milieu universitaire, avec voilà, des normes extrêmement genrées, même si ce n'est pas ce qui est officiellement affiché, mais avec une image, une représentation de ce qu'est supposé être l'anthropologue sur son terrain, avec une vision assez romantisée, exotisante, hein, qui peut dans certains dans certaines sphères de l'anthropologie toujours exister. Et donc ici vraiment ça revenait battre toutes ces cartes là et ça venait vraiment déconstruire en fait ces stéréotypes de genre aussi sur le terrain, puisque je n'étais absolument pas l'homme solitaire qui part investiguer sur son terrain de manière un peu romantisée ou romantique, mais au contraire, j'avais vraiment un statut social à tenir, une position sociale à tenir. J'étais aussi une femme blanche, donc ça c'était important aussi. Et donc voilà, donc ça c'est vrai que sur ma positionnalité, il y a pas mal d'enjeux qui se sont greffés autour de cela, et ça m'a donné des accès à des terrains. Ou en tout cas des espaces particuliers, je pense, que je n'aurais peut-être pas eu de la même manière si j'avais été seule sur mon terrain dans les premiers temps. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait vraiment comme cette dimension de, très clairement en travaillant avec les élites, en tant que jeune femme mariée, c'est qu'aussi pas mal de ces hommes, puisque les élites politiques locales à Yuwaru sont masculines, m'ont pris sous leur aile, en fait. Donc, à la fois, il y avait ce rapport très patriarcal, hein, et une position qui m'était assignée, hein, alors même si on avait des négociations de part et d'autre, j'avais quand même cette position qui m'était assignée. Et en même temps, du coup, il y a vraiment eu cette idée d'apprentissage et de m'expliquer, hein, un peu comme un cadet à qui on doit expliquer le fonctionnement de les règles du jeu. Et donc il y avait vraiment cette idée de comment ces élites et ces hommes souvent âgés en fait m'ont permis d'avoir une place, un espace, un accès à leur quotidien, et aussi comment ils ont cherché à m'expliquer en fait leur point de vue, leurs règles du jeu, les règles du jeu politique, Et puis ces dynamiques que j'observais. Donc ça m'a donné un point de vue privilégié d'observation, je pense, à devoir négocier sur le fil, où clairement les enjeux de genre étaient au centre de cette position. Oui.
C'est intéressant parce que sur mon terrain, je ne pourrais pas jurer que ça ne se passe pas exactement de la même manière. Or, je fais de recherche en Belgique avec des élites qui sont elles aussi majoritairement masculines et pour lesquelles je suis aussi une jeune femme. Et je t'écoutais, je réfléchissais à une expérience. Il y avait un jeune homme exactement du même âge que moi qui était rentré au cercle en même temps que moi et qui avait été vraiment intégré comme un fils par certains hommes qui l'emmenaient faire des tours en voiture, etc. Et qui du coup était rentré tout de suite dans des espèces de transmission des homosocialités. Alors que moi, on avait plutôt tendance à agir envers moi plus comme une jeune fille de laquelle il faut prendre soin. Et du coup, je crois très sincèrement que je n'ai pas du tout eu accès au même cercle que lui, que j'avais une place qui était très relative à comment j'étais perçue comme quelqu'un dont il faut prendre soin, mais qu'on ne va pas inviter à rentrer dans le collectif parce que je n'y appartiens ultimement pas, quoi.
Exactement, c'est exactement ça. Oui, tout à fait.
C'est ce qui est très particulier.
Et en même temps, du coup, aussi pas perçu comme une potentielle rivale ou menace, aussi sur le plan du jeu politique. Alors forcément, à Iwaru, encore plus, même si on blaguait en disant que maintenant je connaissais suffisamment les jeux politiques pour pouvoir, aux prochaines élections, me porter comme future candidate. Donc ça faisait partie des blagues avec mes interlocuteurs de terrain. Mais il y avait vraiment de cela, oui. Il y avait vraiment du fait de pouvoir s'asseoir dans un coin et de pouvoir... avoir une perspective sur toute une série de dynamiques qui se passaient. Et alors, ce qui était intéressant aussi, c'est que, et ça, c'était un enjeu très fort pour moi, c'était aussi de ne jamais chercher à forcer, en fait, ce que les gens souhaitaient partager avec moi ou pas. Donc, effectivement, du fait de ma propre positionnalité, notamment la nuit, hein, le soir, on sait bien que toute une série de coulisses en politique se jouent en dehors des feux des projecteurs, et certainement le soir. Et du fait que j'étais une femme mariée, j'étais quand même supposée être soit dans ma cour avec mon mari, soit, si j'étais en extérieur, avec mon mari ou bien dans certaines familles dont on était très proches. Mais donc, du coup, c'est sûr que j'ai dû développer des stratégies d'enquête aussi en tenant compte de cette positionnalité, puisque de facto, je n'avais pas le même accès en fonction du moment de la journée ou en fonction des enjeux. Donc j'avais dans la temporalité de la recherche, j'avais pas accès à ces espaces de la même manière. Donc du coup, ça m'a amené à dégager des stratégies de recherche, voilà, à pouvoir, contourner en fait certaines choses, et du coup de pouvoir réinvestiguer, de pouvoir aller voir régulièrement ces élites lors des audiences qu'elles donnaient, de pouvoir développer. Du coup, ma stratégie principale a été de développer une certaine quotidianité, en fait, de développer une certaine routine. Du fait qu'ils me voyaient régulièrement, de pouvoir suivre un peu les choses au jour le jour, chemin faisant. Et du coup, cette familiarité m'a permis du coup de quand même pouvoir collecter des données assez intéressantes et pouvoir comprendre toute une série d'enjeux, même si je n'assistais pas spécialement à la réunion ou à l'entrevue où certaines discussions avaient eu lieu en particulier.
Alors moi, il y a un autre truc qui est venu me chercher au fond et qui me met très au travail depuis quelques jours. Enfin, voilà. C'est la question de la capacité d'adaptation des élites. Mm-hmm. Parce que je pense très sincèrement que la force de mes propres élites, donc mes élites économiques belges, c'est leur capacité d'adaptation. C'est parce qu'elles sont totalement capables de sans cesse ravaler la critique, s'adapter à elle, ils le disent très clairement sur le terrain, ils disent faire un virage à 180 degrés. Enfin, c'est la qualité qui est la plus valorisée sur mon terrain, qui est l'adaptation, la capacité de comprendre ça. Et ce qui m'a vraiment mise au travail dans ce que tu racontes, c'est comment, face à ces élites, tu as eu un sentiment d'immobilité et d'élite complètement sortie de l'histoire, comme ça, comme si elles avaient toujours été là comme ça et acceptées comme telles, alors que l'adaptation se trouve derrière, alors que moi j'ai l'impression que sur mon terrain, à l'inverse, le discours de l'adaptation est un mirage de fumée qui sert à marquer des élites qui, elles, ne changent pas.
C'est ça.
Qui a quelque chose qui se joue comme ça, une tension que j'arrive pas encore tout à fait à saisir.
Alors, Alors, effectivement, alors à Yuwaru et dans le Delta, mais en tout cas à Yuwaru, ce qui est très clair, c'est que donc il y a cette structuration du gouvernement des hommes et du gouvernement des ressources, hein, avec ces autorités traditionnelles, chefs des pâturages, maîtres des pâturages, maîtres des terres, maîtres des eaux, et puis ces deux chefferies politiques, hein, donc liées aux deux villages qui composent la ville de Yuwaru. Donc, toutes ces autorités dites traditionnelles, alors je dis dites parce qu'en fait, si on s'intéresse à la manière dont, dont elles présentaient cette idée de tradition, c'est toujours cette idée de qui est né trouvé là, et qui est donc cette idée d'intangible, effectivement, qu'on ne peut en soi pas remettre en question, et qui est historiquement lourde et présente dans la zone. Et donc oui, il y avait cette espèce de pesanteur sociale où, malgré finalement un contexte extrêmement dynamique sur le plan politique, hein, en suivant un petit peu l'histoire récente, avant, enfin depuis les années 70 en tout cas, jusqu'à maintenant, très clairement, il y avait cette recomposition des élites, et effectivement, il y avait ces dynamiques extrêmement changeantes, et en même temps, c'était toujours les mêmes familles en place, et toujours ces autorités-là qui finalement arrivaient à se maintenir au pouvoir, et à avoir cette espèce de position de gatekeeper par rapport aux potentialités de changement, en fait. Avoir cette sensation, cette impression qu'ils avaient toujours un coup d'avance sur finalement ce qui allait arriver, ce qui allait advenir, et qu'ils allaient pouvoir du coup mieux se repositionner pour être à la fois dans les positions de pouvoir et en même temps dans les positions de monopole, de captation des ressources et des rentes. Et donc ça, clairement, c'est ce que ces élites me renvoyaient. Alors cette idée d'historicité des élites et de reconfiguration et d'adaptation, alors pour moi, effectivement, ces élites sont beaucoup, mais pas que pour moi, pour beaucoup d'auteurs, mais effectivement, cette idée d'intangibilité ou de toujours avoir été là est effectivement construit socialement. Ça n'a absolument rien d'évident. Parce que si on s'intéresse à l'histoire des familles, et c'est pour ça que je me suis intéressée aussi pas mal aux histoires et aux mémoires familiales, on se rend compte qu'on a affaire effectivement à des choses qui bougent, à des choses qui sont beaucoup moins fixes que ce qu'on aurait pu, que ce qu'on peut percevoir dans certains discours qui sont tenus sur la place publique. Et en même temps, le fait de pouvoir tenir ce discours-là et le fait de tenir ce discours-là permet de cadenasser le changement, ou en tout cas de l'orienter et de chaque fois se repositionner pour pouvoir rester dans ces positions monopolistiques. Et enfin, je pense qu'il y a un élément très clair, je parlais de monopole de captation des ressources et de captation de rente, il y a vraiment cette idée qui vient avec cette expansion capitalistique qui touche également le Delta, hein, avec cette monétarisation des ressources et cet emballement, notamment à travers cette monétarisation des ressources, des logiques d'endettement et de surendettement, notamment chez les pêcheurs par rapport à du matériel de pêche, etc., en fonction des saisons. On se rend compte comment, effectivement, ces questions de capitalisme sont déjà là, sont déjà présentes depuis de nombreuses années. Et quelque part, pour moi, cette question des élites marche main dans la main avec cette expansion capitalistique. Et donc, pour moi, il y a vraiment... non pas ces élites traditionnelles ou dites traditionnelles qui sont un héritage du passé, alors il y a bien sûr cette dimension d'historicité, mais en même temps il y a très clairement comment dans le contexte contemporain elles se repositionnent et elles arrivent à maintenir leur position monopolistique malgré des dynamiques politiques et malgré des réformes politiques qui étaient supposées amener une ouverture du jeu politique. Alors, je ne vais pas dire que le jeu politique n'a pas changé ou ne s'est pas modifié, parce qu'effectivement, il y a eu, on va dire, une certaine ouverture du jeu politique, mais ouverture au sein même de ces élites. C'est-à-dire que certaines autorités, certains acteurs qui, historiquement, n'avaient pas un rôle politique ni au sein des partis politiques, vont rentrer dans la danse, comme le maître des pâturages, vont rentrer dans la danse pour se présenter comme candidat et être élu maire. Donc, clairement, il y a une transformation du jeu politique, il y a des modifications, il y a une certaine ouverture, mais en même temps, le champ des possibles reste cadenassé. Et je pense que c'est un des éléments cruciaux pour comprendre ce qui se passe dans le Delta aujourd'hui, et pour comprendre cette dynamique conflictuelle et ces conflits armés, c'est que ces élites en place, finalement, dans leur position monopolistique, si tu veux, il y avait une dynamique qui augmentait la précarisation de toute une série d'acteurs qui ne se retrouvaient pas en position de privilège, qui fait qu'effectivement, à un moment donné, certains discours ou certaines dynamiques conflictuelles vont leur parler pour sortir de ces dynamiques de précarisation extrême liées à des enjeux de survie. Et donc, on ne peut pas, pour moi, délier cette dynamique conflictuelle, cette dynamique de conflit armé dans le Delta, et probablement dans le Nord aussi, de ces questions de survie, de ces questions de captation de rente, de ces questions aussi d'élites qui vont avoir des positions monopolistiques et qui vont manger, comme on va dire, tandis que d'autres souffrent vraiment.
Oui, surtout qu'en fait, je réfléchissais à ça, du coup le Delta est en creux à intervalles réguliers. Comment est-ce que les gens continuent à se nourrir au sein de la ville?
Mais donc alors, à Iwaru, sur l'approvisionnement de la localité, alors évidemment, ça fluctue au fil des saisons, au fil des crues et de décrues du fleuve. Alors bien sûr, le fleuve est une artère commerçante historique, à part entière, avec des bateaux, puisqu'il y a effectivement une batellerie extrêmement développée qui circule sur ce fleuve. Donc effectivement, il y a des approvisionnements qui se font par le fleuve. Il y a des approvisionnements qui se font quand on a les animaux, quand on a les troupeaux dans le delta. Évidemment, ce sont les moments fastes où effectivement on a de la viande, on a du lait. On n'est pas en période de vache maigre, on va dire. Et puis il y a les périodes de soudure, hein, quand les animaux ont quitté le delta, quand on est vraiment avec des chaleurs assez accablantes et où finalement les dynamiques d'approvisionnement sont réduites. Et où effectivement, à ce moment-là, les stratégies alimentaires se retrouvent, doivent s'adapter et doivent tenir compte de cette période de soudure. Donc effectivement, pendant les périodes de soudure, quand il n'y a rien à manger pour les animaux, c'est tant les animaux que les hommes qui souffrent. Mais en même temps, il y a cette dynamique, ce cycle de crue et de décrue, et donc on sait que, voilà, que ces cycles-là existent. Et donc, aussi, toute une partie des populations du Delta va quitter simplement le Delta à partir du moment où il n'y a plus rien à manger dans le Delta et où les animaux vont retourner en transhumance et sortir du Delta. Donc, on a vraiment ces cycles-là et des populations qui sont extrêmement mobiles en fonction de ces cycles de crue et de décrue. Et les questions de survie ou des stratégies d'adaptation et de survie sont intimement liés, enchâssés dans ces dynamiques de crue et de décrue du fleuve et dans les mouvements des animaux, que ce soit les troupeaux ou le poisson aussi, hein, les mouvements de migration des poissons dans le fleuve et les cycles de reproduction des poissons qui jouent un rôle très important pour la pêche. Maintenant, évidemment, on a cette donne environnementale extrêmement complexe qui se retrouve aussi fortement bousculée par toute une série à la fois, on peut parler des changements climatiques très clairement, mais aussi toute une série de chantiers, hein, comme la construction de gros barrages hydroélectriques, qui vont effectivement transformer les rythmes de crue et de décrue, et aussi transformer les cycles de vie, de reproduction notamment des poissons. Et si les cycles de crue et de décrue se trouvent modifiés, ça veut dire que les plaines inondables et inondées vont également avoir des superficies qui vont varier, et donc les espaces que les animaux, les troupeaux vont pouvoir pâturer vont se retrouver aussi transformés. Donc on voit comment effectivement on a des effets de domino extrêmement importants et qui impactent au final ce microcosme où toute une série de groupes ethnico-professionnels vont se partager un même espace, mais avec des ressources différentes, avec une organisation extrêmement hiérarchisée. Et donc ça, c'est vraiment... voilà, si on change cette donne environnementale, très clairement, cela va impacter énormément les dynamiques sociopolitiques des populations qui vivent dans ces espaces-là. Ce que je dis là est un peu bateau, mais je pense que ce qui se passe dans le Delta, vu cette configuration particulière du Delta et cette place particulière du Delta dans le Sahel, hein, cette idée d'oasis dans le Sahel, fait qu'on est dans un contexte extrêmement sensible par rapport à cette transformation-là. Et cela touche quand même énormément de un gros volume de population, hein, parce que on a vraiment... énormément de populations qui gravitent autour du delta et de ses ressources.
Bon, je comprends où tu vas. Du coup, je me posais la question de si Est-ce que ces élites n'arrivent pas aussi à se maintenir par un accès favorisé à l'information comme ressource ?
Oui. Donc ça, c'est clairement, en tout cas, ce qu'on a vu dans le cadre du processus de décentralisation de l'État. En tout cas, pour moi, c'était très évident. Donc le Mali, à la fois, a cette particularité d'avoir proposé un processus de décentralisation de l'État assez innovant, hein, donc qui n'était pas au départ piloté par le gouvernement, mais vraiment cette idée de vouloir mettre en place un processus en cascade qui va s'appuyer sur toute une série de leaders locaux et vraiment avec un processus d'information et de sensibilisation de toute une série de groupes d'acteurs en cascade. Mais en fait, dans la pratique, en tout cas à Yuwaru même, dans ce contexte singulier, ce qu'on a pu observer, c'est que finalement ces leaders locaux, ces fameuses grandes gueules, on va dire, avec des guillemets, comme parfois on pouvait les qualifier, en fait, sont éminemment proches, en fait, de ces autorités traditionnelles et sont partie prenante de ces élites. Et donc, finalement, le fait d'être à ces positions privilégiées pour recevoir l'information, pour comprendre quels sont les processus de transformation qui vont s'amener au niveau micro-local, de là, en fait, il y avait ce coup d'avance sur toute une série d'enjeux, sur toute une série de dynamiques que d'autres acteurs n'avaient pas. De plus, le fait qu'ils se retrouvent en position de privilège, notamment sur le plan économique, fait qu'ils pouvaient aussi dégager du temps, de l'énergie, des ressources, en fait, pour pouvoir participer à ces espaces de concertation, à ces logiques, à ces formations, parfois. Et donc, on voit comment, effectivement, le fait d'être en position de privilège, de bénéficier déjà de toute une série de ressources, leur permettait, finalement, de s'organiser au regard de l'information qu'ils avaient pour pouvoir renforcer leur position monopolistique. Et donc, oui, l'enjeu de l'information est extrêmement important.
Et selon elles-mêmes, d'où ces élites tiennent-elles leur légitimité ? Sur mon terrain, leur légitimité, enfin, elles pensent tirer leur légitimité de leur mérite au travail. C'est-à-dire qu'ils réaménagent un récit méritocratique qui les met en position d'entrepreneurs, littéralement, de leur propre carrière et de leur vie. Et le fait qu'il y ait l'émergence parfois de vrais récits méritocratiques permet de légitimer cette idée, en fait. Du coup, il faut qu'une fois de temps en temps, il y ait un jacquois qui émerge du fin fond de la Chine pour dire, bah, vous regardez, c'est nous, on fait la même chose, en fait, même si mon père était déjà entrepreneur ou que mes parents possédaient une mine de diamants, comme le fait Tesla, quoi.
Alors, ici... Alors, bien sûr, il y a l'histoire longue de la zone. Donc, d'où est-ce que ces élites tirent leur légitimité ? Il y a l'histoire longue de la zone. Le fait qu'elles ont occupé ces positions d'autorité dite traditionnelle dans le temps long, qu'il y a toute une structuration de l'espace, de l'accès aux ressources qui se fait à travers ces autorités dites traditionnelles. Donc, clairement, il y a une partie de leur légitimité qui vient de là. Elles existaient antérieurement à la colonisation française ou avec cette référence à l'Empire Peul du Massina qui était vraiment le moment fort pour toute une série de groupes Peul. Mais donc, il y a vraiment ce rapport à l'histoire politique de la zone qui va vraiment leur donner une certaine légitimité. Il y a aussi, ou parfois le fait d'avoir été installé, hein, par exemple, celui qui est devenu, enfin la famille qui est devenue chef de canton sous la colonisation française a été vraiment installée par Sékou Amadou et puis a été confirmée dans sa position par la colonisation française, puisque la colonisation française dans cette partie-là du Mali, c'est pas forcément le cas partout, mais c'est fortement appuyé en fait sur ces autorités traditionnelles pour pouvoir gouverner ces espaces-là et en capter aussi toute une série de ressources pour la métropole. Donc on voit comment, en fait, historiquement, elles ont réussi toujours à se repositionner au regard du contexte politique plus global et comment elles ont puisé leur légitimité dans cette historicité propre du jeu politique. Ensuite, il y a ces familles régnantes, quand même, hein, qui ont une histoire longue aussi, et qui expliquent qu'elles ont cette légitimité et qu'elles ont ces positions de gatekeeper pour l'accès aux ressources, que ce soit l'eau, les pâturages ou la terre. Et donc cette légitimité provient de là aussi. Après, dans le jeu politique local plus contemporain, au-delà de cette légitimité historique forte, clairement, le fait d'avoir la main sur les ressources fait qu'on a la main sur les hommes. Et donc, à un moment donné, dans un contexte où on souhaite pouvoir continuer à avoir accès au pâturage, où on souhaite pouvoir continuer à avoir accès à certains points d'eau pour pouvoir pêcher, il est difficile de venir challenger ces autorités qui ont une certaine, qui ont une certaine mainmise sur l'accès aux ressources. Donc, on a aussi affaire à ce type de légitimité-là, qui s'est retrouvé bousculé. Alors on est constamment, c'est pas assis une fois pour toutes, on est dans un constant remaniement, renégociation dans un quotidien, et on a des réarrangements de ces autorités, de leur capacité de mainmise, et des réarrangements avec par exemple des villages satellites ou des campements de pêche qui vont venir reconfigurer ou en tout cas challenger certaines de ces autorités, mais on a vraiment cette légitimité qui n'est pas construite effectivement autour de ce que tu expliques sur le discours méritocratique par exemple, qui ne se retrouve pas à Yuwaru, mais au contraire on a aussi une certaine par contre ce qu'on a aussi c'est une certaine lucidité de ces élites sur finalement leurs compétences et ce qu'elles peuvent faire. Et ce qui était très intéressant pour moi dans l'étude du jeu politique local, c'est que en fait elles ont réussi, ces élites, à combiner ces différentes légitimités. On avait aussi d'autres acteurs qui avaient eu une carrière dans l'administration par exemple, et donc qui étaient lettrés, qui comprenaient très bien les rouages administratifs, et donc qui pouvaient, et donc on voyait comment en fait dans le jeu politique local c'était une combinatoire de une série de personnes qui amenaient une série de compétences autour de ces autorités traditionnelles qui permettaient de passer et puis de se faire élire. Voilà. Sans oublier le fait qu'il y avait clairement cet enjeu de voter pour pouvoir... quand on était par exemple un campement de pêche ou quand on est un village périphérique à mais dépendant du maître des eaux, par exemple, ou si on voit que ce village n'a pas voté pour le maître des eaux de Yuwaru, par exemple, on peut comprendre qu'effectivement, on va remettre en question, ou c'est interprété comme une remise en question de certaines relations de loyauté et de certaines relations de tutorat, en fait, hein, entre hôtes et étrangers, donc une relation politique bien spécifique liée à l'accès aux ressources, et donc ça pouvait entraîner des conséquences, pas uniquement sur la question des élections, mais aussi sur la renégociation de l'accès aux ressources. Donc on voit qu'on est dans un contexte extrêmement particulier, et non démocratique. L'idée n'est évidemment pas de penser qu'un homme vaut un homme, mais au contraire, c'est parce que dans le Delta, on est différent, qu'en fait, on peut se partager un même espace de manière synchronique et diachronique pour en capter et en exploiter les ressources, en fait.
Est-ce que, juste pour finir et conclure, tu veux bien ouvrir sur tes recherches actuelles et notamment sur le nexus développement, sécurité...
Et migration. Alors... en fait, ce qui m'a toujours interpellée et passionnée, enfin, pour revenir à ce que tu avais souligné en début de discussion, c'était vraiment cette idée de carrefour, en fait, d'intrication, de points de connexion, de points nodales, même si Yuwaru, sur les cartes, il n'y a pas des routes qui arrivent à des routes matérialisées, des infrastructures qui permettent d'arriver directement à Yuwaru. On se rend compte qu'en fait, la localité joue un rôle central et est au carrefour de toute une série de réalités et de dynamiques politiques qu'il était vraiment intéressant d'étudier. Et donc, j'ai toujours été intéressée par ces idées de nexus, par ces idées de nœuds, en fait, de carrefour. Cette dimension aussi, la question de la mobilité, m'a aussi dans ma thèse extrêmement passionnée, en fait, puisque ça traversait ma recherche et que c'était vraiment cette idée de mobilité à la fois des populations et des animaux qui permettait en fait au delta de fonctionner. Et donc quand j'ai réfléchi à mon projet postdoc, ce qui m'intéressait vraiment, c'était de retrouver de réinvestiguer ces nœuds, ces nexus, en fait, ce nexus migration, développement, sécurité. On voit comment on va avoir toute une série de thématiques qui vont s'agréger à un moment donné pour pouvoir et qui va impacter les questions de mobilité. Et donc ça, c'est vraiment le projet de recherche que je mène actuellement. C'est comment, effectivement, ces questions de mobilité vont se retrouver reconfigurées de nouveau à travers ce nexus migration, développement, sécurité, qui est en fait qui propose du coup tout un, j'ai envie de dire, un package institutionnel, tout un arsenal d'instruments et de politiques publiques qui va impacter ces mobilités essentielles comme stratégie de vie et de survie dans la région, en fait, dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'interpelle très fort, du fait d'avoir mené mes recherches doctorales dans un contexte qui n'était pas sédentaire, de comment, effectivement, tout ce rapport à l'État, tout ce rapport à la mobilité est marqué par une empreinte, profondément marqué par cette empreinte de la sédentarité, alors qu'en fait on est dans des contextes où les gens sont extrêmement mobiles et circulent. Et donc cette idée de circulation me semblait vraiment une des choses que j'avais envie de continuer à investiguer sous différents autres ancrages empiriques, hein, notamment avec les syndicats des transports et des chauffeurs routiers, et aussi m'intéresser un peu plus aux infrastructures qui sont au carrefour de ces mobilités, d'autres types de mobilités. Mais voilà, ça m'interpellait de vraiment réfléchir sur cette idée, sur ce fameux nexus, sur ce package, j'ai envie de dire, institutionnel qui vise à fixer les populations, particulièrement en temps de crise, et d'autant plus dans un contexte de conflit, alors qu'on voit que les populations sont extrêmement mobiles et vont être d'autant plus mobiles dans un contexte de conflit armé, puisqu'elles vont quitter les zones en conflit. En tout cas, certaines populations, certains groupes de populations vont quitter les zones en conflit. Et donc, de voir comment, en fait, on est à nouveau dans un cadre institutionnel particulier qui invite à la fixité, qui invite à contrecarrer les mobilités. Alors, bien sûr, avec toute cette articulation euro-africaine autour de cette, de nouveau, avec des guillemets, crise migratoire vécue et perçue par l'Europe et une approche extrêmement eurocentrique de l'Union européenne autour de sa politique étrangère au niveau du Sahel. Mais l'idée, c'était de vraiment investiguer comment, voilà, au Mali, au Burkina Faso, du coup, parce que j'ai étendu avec mes terrains empiriques avec le Burkina, de comprendre comment, en fait, cette approche institutionnelle, ce nexus, d'abord s'est construit, et puis comment il vient à nouveau à reconfigurer les mobilités, des mobilités qui sont essentielles dans les façons de vivre, en fait, dans ces espaces-là.
J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous souhaitez prolonger la discussion, des liens bibliographiques vous sont proposés dans la description. On se retrouve bientôt pour parler d'anthropologie.